Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est l'histoire d'une amitié dans un village corse, d'un drôle de trio qui se fréquente contre toute attente, se met à faire ensemble des mots croisés et des excursions. C'est la rencontre fortuite entre des êtres que rien ne rassemble en apparence, si ce n'est ce lieu qui les inspire, les chênes verts peut-être, les figuiers et les eucalyptus. La Corse, on le sait, ça fédère. On pourra l'appeler une amitié ou bien une façon de faire famille, une entente discrète et respectueuse, ou bien on pourra ne pas l'appeler du tout, ce lien particulier qui s'est noué avec les années. Ça se passe sur le flanc est de l'île, dans un village perché, mais pas trop, en Haute-Corse, pas très loin de Borgo, à une vingtaine de kilomètres de Bastia. Ça n'est pas le plus pittoresque des villages, mais il se tient quand même fier et bien planté en plein maquis, à flanc de la montagne. Enfin, ça pourrait être ailleurs, ici ou là. De toute façon, en Corse, c'est à peu près tout qui est beau. Voici donc leur histoire à trois voix, Patrick, Christine et Charles, quand les classes se mélangent, que les frontières s'estompent, mais jusqu'où et jusqu'à quand? C'est tout de suite dans Les Pieds sur Terre par Alice Babin.
Alors, je m'appelle Christine Filippi, je suis psychiatre à la retraite, j'ai 80 ans dans quelques jours, j'habite en Corse maintenant depuis 25 ans, et avant j'ai habité à Paris, j'ai habité en Allemagne, j'ai fait mes études de médecine en Allemagne, voilà. Donc, mon père était corse, ma mère ne l'était pas, mais elle a été pendant 30 ans maire du village de Vescovat et y a fait beaucoup de choses. Et donc, moi, j'ai pas grandi en Corse parce qu'on habitait Paris, mais on venait en vacances en Corse et donc j'ai eu quand même pas mal d'amis au village. Alors, cette maison, c'est une maison que je voyais quand j'étais jeune fille parce que je venais chercher le cheval du paysan qui habitait là et j'aimais beaucoup cette maison. Et j'étais copine avec le paysan qui habitait là et qui habitait dans une partie de la maison quasiment en ruine, sans eau et sans électricité. Et un jour, j'ai dit à mon père, « Ah, mais moi, je voudrais avoir cette maison, c'est beau, etc. » Et il m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une maison pareille? Tu vas mettre de l'argent là-dedans, tu la vendras jamais parce que c'est une propriété de famille. » Et j'ai insisté. Et après, j'ai eu cette maison comme maison de vacances. Et j'ai décidé, il y a 25 ans, de venir m'y établir pour pouvoir m'adonner à ma passion des chevaux. Donc, j'ai mes chevaux autour de moi, j'ai monté à cheval, j'ai fait de l'endurance équestre en Corse pendant dix, quinze ans. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais beaucoup aimé Paris. J'ai pas du tout aimé le milieu dans lequel mes parents évoluaient à Paris, qui était un milieu politique un peu élitiste, disons, où il fallait toujours respecter sa manière de s'habiller, les manières à table, la manière de parler. C'est un milieu qui m'étouffait. Puis en plus, dès que je rencontrais quelqu'un, mon père me disait « Ah ben je le connais, son père est préfet. Ah ben je le connais, son père est ministre. Ah ben je le connais, son père, etc. » Donc j'avais l'impression, effectivement, qu'il n'y avait aucune ouverture. J'étais complètement cernée. Ça m'a beaucoup, beaucoup poussée à venir m'installer ici, d'autant plus que j'ai trouvé assez facilement à m'insérer comme psychiatre à l'hôpital de Bastia et à m'installer. J'avais un ami qui était psychiatre et qui nous a dit « Venez vous installer avec moi dans le cabinet, on le partagera ». Donc, les choses ont été assez faciles à ce moment-là. Et c'était en 2000, oui, en 99, je crois que j'ai pris la décision. Je me suis dit, voilà, je commence une nouvelle vie. Alors là, j'ai eu une vie très bien remplie parce qu'il y avait le travail à l'hôpital, les gardes de week-end et les gardes de nuit, le travail à Guisanache, le travail au cabinet. Et en même temps, bon, je m'installais ici, je faisais des balades à cheval avec ma copine et on montait dans tous les villages des montagnes. Moi, j'ai passé ma vie à cheval, quoi. Alors, j'ai pris ma retraite, mais bon, je l'ai prise en 2013, je crois, ma retraite. Et je dirais peut-être a posteriori, je l'ai prise un peu trop tôt, parce que au bout d'assez peu de temps quand même, cette maison qui est ici m'a semblé un peu trop grande pour Charles et moi. Nous étions deux à la maison, avec bon, pas beaucoup d'activités, seuls dans cet immense terrain, puisqu'il y a des terrains partout. Alors, ça ne s'est pas manifesté immédiatement. C'est arrivé peu à peu, un sentiment de vide, de... C'est un sentiment, il n'y a rien. Et ces terrains que j'aime beaucoup, où il n'y a pas une maison et où il n'y a que des chevaux et des arbres et des jardins, ça commençait à devenir, pour moi, un peu dur à supporter. Et l'isolement devient... de la solitude. Enfin, on est vraiment dans un isolement très important quand on est dans la plaine.
Je m'appelle Charles. Je suis né dans une famille juive en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans, j'en ai 79 maintenant, et je vis en Corse depuis 25 ans, après avoir vécu tout le reste du temps à Paris, où j'ai exercé aussi bien sur le continent qu'ici, comme psychiatre et psychanalyste, et maintenant je suis retraité. On avait organisé avec Christine un groupe de parole dans le coin pour essayer de établir un peu de lien social dans une cité HLM qui dépend de notre village. Et du coup, j'étais en train de scotcher des petites affichettes pour annoncer la prochaine date de notre réunion. Et là, je vois arriver un type qui m'a dit « Ah, c'est vous qui faites ça ?» Oui, il me dit, eh ben, je viendrai à la prochaine réunion, peut-être que ça va m'aider à me resocialiser. Et cette phrase m'a complètement étonné, et je me suis dit, mince, il y a quelque chose chez ce mec-là qui mérite attention, quoi.
Je m'appelle Patrick Angeli. J'ai 64 ans, je suis corse, j'ai fait passer ma jeunesse et mon adolescence en Corse. À l'âge de 20 ans, je suis parti. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, nous nous sommes mariés pas mal d'années après, nous avons eu un petit garçon, cela se passait assez bien, mais je crois que c'est ça qui était le point de rupture. Moi, je faisais beaucoup de choses, trop de choses. Je crois que je m'éparpillais, j'avais un boulot qui était prenant. Je faisais partie du catering d'Air France. Donc, le catering, c'est un genre de traiteur pour les avions. En plus de ça, je faisais partie du conseil municipal. Je m'occupais de ma maison que je retapais. Je m'occupais de mon petit. Je faisais partie des pompiers. J'étais bénévole dans un centre qui s'occupait de personnes âgées. Et bon, il y avait tellement de choses que... Je crois qu'à un moment donné, j'ai été pas débordé, mais juste après notre séparation, je me suis retrouvé déchiré, ouais, écartelé à droite, à gauche, et voilà. Encore sur on a un dicton qui dit trop bouge, trop pire. Trop, ça estropie. Trop, c'est trop, comme on dit. Et j'étais surtout épuisé. Mentalement, physiquement, c'est ça qui m'a fait petit à petit, fait peur des autres. J'ai quitté les obligations que j'avais. D'abord, j'ai vécu pendant 1 an et demi, presque 2 ans, comme un sauvage. Je suis parti dans certains endroits, un peu seul, comme un ermite, dans des bois. Et sans rien. J'avais juste un couteau. J'ai tout le temps eu ce côté un peu scout. Je trouve deux morceaux de rocher qui sont à côté de l'autre. Je me fais une espèce d'abri en, avec de, ce que je trouve, des morceaux de bois, de la mousse, surtout la mousse. Je me suis fait un abri assez douillet d'ailleurs. Assez douillet. J'avais trouvé un matelas et je m'étais fait un hamac aussi. Sinon, pour l'eau, j'avais trouvé une petite rivière qui coulait. Je mangeais des choses que je trouvais, des plantes que je connaissais. Après, j'ai mangé des choses improbables, bien avant les Koh-Lanta et compagnie. J'ai mangé des fourmis, j'ai mangé du lézard, j'ai mangé du rat des champs. Je voulais le plus possible n'avoir à s'occuper que de moi, se concentrer, se recentrer sur moi. Et c'est lorsque je suis sorti de cette espèce d'ermitage, je quitte les bois, je viens ici pour le décès de mon papa, et quelques mois après, maman décède. Et je me suis rendu compte que la seule famille qui me restait, c'est la seule famille que j'avais en Corse, c'était mon frère et mes deux sœurs. Et je me suis dit, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose, là. Je suis parti pendant presque 40 ans sur le continent. Je connais pratiquement pas mes frères et sœurs. J'avais besoin de retrouver ma famille. Mais après, j'avais l'impression que ma famille me reprochait d'être parti, d'être comme j'étais. Donc j'étais malheureux. Quand je rencontre Charles, cela fait 3 ans que je suis revenu du continent. Et nous sommes rencontrés dans un petit village qui s'appelle Arène. Et Charles était en train de coller, avec un très grand sérieux, des affiches sur un pan de mur. Ils avaient créé un sort de club, tant de paroles, T-A-N-T de paroles, tant de paroles. Voilà. Je sais pas, ce type a plu tout de suite. Il avait une. Quand il m'a expliqué ce que c'était, il m'a dit bon, on espère vous voir. Je dis, ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr quand même, parce que bon, j'étais plus habitué aux gens, quoi. Je m'étais un peu isolé. Et puis, bon, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'y suis allé.
Bon, il a participé au groupe et puis il est revenu régulièrement à chaque réunion. Et puis il était même devenu quasiment le plus assidu de tout le monde. Le groupe s'est un peu étiolé et il a fini par s'éteindre. Mais on a continué la relation avec lui d'une certaine façon, quoi. On le voyait errer sur la route à faire du stop à longueur de journée. Bon, il nous disait que ça lui permettait d'aller et de venir, qu'il n'avait pas de voiture et que, en même temps, ça lui permettait de trouver des petits boulots, ménage, de débarrasser des greniers, des broussailles à jardin, des trucs comme ça, et que, ben, en gros, c'est comme ça qu'il vivait.
France Culture. Pieds sur terre.
Et petit à petit, on a fait connaissance avec lui comme ça. On s'est aperçu qu'il vivait dans des conditions très difficiles dans sa maison de famille parce que c'était ses frères et sœurs qui avaient hérité et lui n'avait qu'un petit bout de terrain où il avait mis un mobil-home et qu'il vivait sans eau courante et sans électricité dans ce mobil-home qui était en train de se dégrader. Et moi qui avais un grand garage en dessous de ma maison, enfin en dessous, au rez-de-chaussée de ma maison, je me suis dit que j'allais faire un studio, que j'allais peut-être... enfin, c'était une idée qui m'est venue parallèlement à la rencontre avec Patrick. C'est pas Patrick qui m'a donné cette idée-là, mais je me suis dit, ah ben tiens, cette maison qui est gigantesque, on pourrait y abriter quelqu'un. Et il se trouve qu'une fois que le studio a été fini...
Cécile me dit qu'elle a un petit garage en bas. dans lequel j'avais travaillé ou que j'avais nettoyé. Et elle envisage d'en faire un petit appartement. Est-ce que ça m'intéresse de l'occuper ? Et puis, je lui dis oui, pourquoi pas ? D'abord, on discute. Hein, je lui dis, voilà, combien tu me demanderais de loyer, etc., etc. Et là, elle me dit, rien, je ne veux rien. Simplement, ta présence en bas me rassure.
Il a accepté, il s'est installé, et ça a complètement rompu cet isolement que je redoutais. Donc, il s'est installé en 2021, à quelques mois près. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'il est là. Charles a décidé, parce qu'il s'ennuyait en Corse, de partir une semaine par mois à Paris. Et à ce moment-là, Patrick est très, très, très présent. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de lui-même, mais qui est très attentif aux autres. Et donc, il me demande tout le temps, ça va, tu n'as pas peur, tu n'es pas facile comme ça. Et voilà, et je ne me sens pas seule. C'est devenu quelqu'un qui fait partie de notre vie. Et pas seulement quelqu'un qui habite à côté et qui remplit un peu l'espace. Il est vraiment présent dans notre vie, quoi. Alors en plus, il s'est beaucoup occupé d'enfants quand il était lui-même. Il habitait à Clermont-Ferrand avant. Et quand ma petite fille vient me voir, il s'occupe d'elle. On allait donner ensemble à manger aux chevaux. Mais ensuite, Patrick lui montre les plantes qu'il connaît par cœur, fait des dessins, fait des peintures, lit des choses avec elle. Et elle, elle adore ça. Elle est très contente et elle adore venir. Et il y a Patrick.
Oui, on a une petite routine. Il s'est installé. Moi, les premiers temps, je voulais pas venir comme ça, spontanément. C'est pas chez moi, quoi. Puis c'est Christine qui a insisté en me disant que ça lui faisait du bien de me voir les matins, boire le café avec lui. Alors, moi, je n'avais rien contre. Donc, on peut dire que c'est un planning. C'est pas un planning, c'est une routine, voilà. Sympathique, qui s'est installée. Donc, je viens le matin boire le café. Ensuite, nous faisons chacun ce que nous avons à faire. Le matin, si au plus tard, à 10h15, je suis pas là, il s'inquiète, hein. Il descend de voir. Tous les mercredis, comme je m'occupe entre autres de leur petite fille, je mange avec eux. Par exemple, ce midi, j'ai été invité à son anniversaire. Alors, ça me fait plaisir parce que Christine m'a dit, au fait, tu n'oublies pas samedi pour l'anniversaire. Et puis, je lui dis, mais je sais pas, on m'a rien dit. Et Christine m'a dit, mais on n'a pas besoin de te le dire. Il ne dit pas qu'ils sont faire l'anniversaire sans toi. Ça fait plaisir. Je vais en laisser couler une petite larme. Voilà. Je sens aussi qu'ils prennent soin de moi.
Patrick, il a complètement changé quelque chose pour moi. C'est-à-dire que sa présence représente un pôle... Moi, je dirais presque un pôle culturel qui est important. Quand on fait des mots croisés ensemble, quand on regarde un film à la télé, quand on parle de culture, de littérature, quand on écoute la radio et qu'on parle d'actualité, il a des réactions, des réflexions qui sont toujours pertinentes, enfin, qui sont intéressantes pour moi. Et ça, je trouve que c'est très précieux parce que c'est d'autant plus précieux que c'est rare. Je ne soupçonnais pas d'être capable, on peut dire, de me lier d'amitié avec quelqu'un d'aussi différent. Jusqu'à présent, enfin, quand j'ai vécu à Paris ou même encore ici, je ne frayais qu'avec des gens de mon milieu, de mon petit microcosme, de mon petit univers, je crois un peu comme tout le monde. Petit à petit se construit quelque chose qui ressemble à de l'amitié. Bon, Patrick, pour moi, c'est plus, ça devient petit à petit un ami. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait, ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est progressif. Mais c'est quelqu'un à qui je tiens. Donc, il y a des moments où il m'agace beaucoup parce que je le trouve trop pointilleux, parce que je le trouve trop perfectionniste, parce que Bon, des trucs comme ça, mais tout le monde a ses défauts. Tous mes amis ont leurs défauts. Et puis, c'est comme ça, quoi. Et puis, j'ai les miens. Donc, il faut aussi accepter que quelqu'un puisse nous supporter. Donc, voilà. En même temps que je parle, je me rends compte à quel point c'est important, cette relation. Il ne se passe pas une journée sans qu'on se voit, quoi, en gros. Mais il est connu dans la région, donc tout le monde le connaît, quoi. Enfin, quand on dit Patrick, on sait qui c'est. Enfin, beaucoup de gens le connaissent parce que beaucoup de gens l'ont pris en stop, parce que il a dépanné à droite à gauche, parce que il est très avenant avec les gens. Quand les gens ont des ennuis, ils se décarcassent pour les aider. Enfin, ça c'est. Il n'est pas comme les autres, voilà.
Oui, c'est la menthe.
Très jolie. Oui, oui, très très jolie.
Alors.
Trois. Porteur fragile.
Est-ce que tu connais les rives de la Cama ?
Les rives de ?
Christine, s'il te plaît.
Les rives
de la Cama ou de la
Belaya ?
Belaya.
Ça serait quoi ?
Mais c'est une définition. Parler sur les rives de Cama et de la Belaya.
Distiller chez les parfumeurs. Bien monté, il est plein d'illusions.
Ah, ça y est. J'ai trouvé le parler sur les rives de la Cama.
Oui.
C'est l'Ouralien.
Ouralien.
Oui.
Fait partie de la famille.
La nièce. Oui. Il a essayé, je l'en remercie, même si ça n'a pas tenu, de m'initier au Suzoku. J'aime pas. Mais par contre, les mots croisés avec Charles, c'est particulier, parce que pour moi, c'est génial. J'apprends plein de trucs et on échange comme ça. Des fois, lui-même est très surpris de ce qu'il découvre, hein, parce que on est des fois persuadé d'un truc et puis voilà, on échange, on partage. Et j'ai eu l'impression de retrouver en Charles un frère, le frère que j'aurais voulu. Voilà. C'est bête, hein, c'est tout bête. Bon, après, chacun ses raisons. Hein, voilà. Mais en plus, pour moi, ça a été instinctif.
C'est vrai que c'est un drôle de personnage. Bon, c'est justement ça qui est paradoxal. C'est qu'il, à la fois par son apparence extérieure et ses manières à table, des milieux de mon milieu, et en même temps, sur le plan intellectuel et sur le plan de la culture littéraire, il est très cultivé. Il m'est bien supérieur en lecture, avec tout ce qu'il a lu. Donc, ça m'incite à me remettre à la lecture pour pouvoir parler avec lui de choses. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif aux autres, et à moi en particulier, donc. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. On a fait aussi des balades dans des villages. Moi, j'aime beaucoup visiter les villages de la Corse. Et ça, c'est des bons souvenirs parce qu'il aime ça aussi. Il aime se balader dans les ruelles. On regarde les maisons, on regarde un peu les choses. Ensuite, on va boire un café, on rentre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette découverte de petits endroits que je ne connais pas. Quand Charles n'est pas là, on prend la voiture et hop, on va visiter tel village. Et hop, on va visiter tel village. Et j'aime beaucoup. J'ai un reproche à lui faire, c'est qu'il ne parle pas tout à fait assez de lui-même. Ce qui m'intéresserait de savoir... un peu comment il a vécu avant, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile. Mais il faut vraiment lui poser des questions, il faut vraiment le solliciter de façon un peu rude pour qu'il accepte de parler de sa vie d'avant. Donc petit à petit, je commence à en connaître des morceaux, mais c'est quelqu'un qui a eu une vie très complexe. J'ai le plaisir, la curiosité de pouvoir pouvoir apprendre à le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui est très important contre cette solitude intérieure. C'est qu'il y a quelqu'un et on a envie de lui poser des questions, de savoir comment il a fait, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, moi, je sais qu'il a un fils et qui a des enfants, et je lui dis, fais venir ton fils avec ses enfants ici, que je fasse sa connaissance. Et Patrick, il m'incite justement à le questionner pour faire connaissance vraiment, fondamentalement avec lui. Non, ça combat la solitude complètement, parce que avoir quelqu'un qu'on a en face de soi, qu'on a envie de connaître, c'est quelque chose qui est... Bon, tu t'oublies dans ces cas-là, tu ne penses plus à toi, tu penses à la personne qui est en face de toi, tu te dis, comment elle vit, ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'il est devenu comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, enfin, c'est passionnant. Il est rentré dans la famille d'une certaine façon. Et ça, c'est quand même très important d'avoir quelqu'un de nouveau dans la famille.
Je sais que ça lui fait du bien. Et Jean m'a dit que Christine lui a dit que ça lui faisait le plus grand bien que je sois là et que ça l'a réconforté. Plus bel échange que ça, je ne vois pas. Ce que j'en retire de tout ça, c'est que je croyais ne plus avoir besoin de personne. Et non pas que j'ai besoin d'eux, mais je me sens bien avec eux. Voilà. Je me sens bien dans cet équilibre-là.
Far, far, there was this little girl. She was praying for something to happen to her. Every day she writes words and more words just to spit out the thoughts that keep floating inside. And she's strong when the dreams come, 'cause they take her, cover her, they are all over. The reality looks far now, but don't go. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. How can you stay?
C'était Drôle de trio dans un village corse, un reportage d'Alice Babin réalisé par Perret Legras. Merci à Christine, bien sûr, à Charles et à Patrick, ainsi qu'à Ludovic Auger, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Far, far, there was this little girl. She was praying for something good to happen to her. From time to time there are colors and shapes dazzling her eyes. Her hands, they invent her new world with oil skies and aqua rivers. But don't you run away already, please don't go. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess. Praying for something big to happen to her. Every night she hears beautiful, strange music. It's everywhere, there's nowhere to hide. But if it fades, she begs, oh Lord, don't take it from me. Don't take it, she says. I guess I have.